J'ai une question à vous poser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu n'était pas d'accord avec la construction de la tour de Babel? La parole de Dieu va éclaircir ce point pour nous aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Bien des gens comparent des événements qui se produisent aujourd'hui avec celui de la tour de Babel. Les prochaines questions à ce sujet sont-elles les tiennes? Y a-t-il des points de ralliement dans le monde d'aujourd'hui qui ressemblent à la tour de Babel? Est-ce que l'homme est aussi rebelle envers Dieu qu'il l'était au jour de la tour de Babel? Pourquoi Dieu a-t-il fait cesser le projet de construction de cette tour? Depuis le jour où Dieu a confondu le langage des hommes sur la terre, y a-t-il un moment où il a contourné la barrière des langues pour annoncer une bonne nouvelle à l'humanité? Et maintenant, dans un tout autre sujet, quelle est la chose principale qui a fait d'Abraham un si grand homme? On va entendre ce que le pasteur Régent Joly va nous enseigner concernant toutes ces questions dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on ne veut pas ouvrir ta parole sans que toi tu sois là, que ce soit toi qui nous enseigne. Alors viens nous enseigner, mon Dieu. Enseigne-nous ce que tu as désiré nous enseigner au moment où tu as inspiré tes Écritures aux prophètes. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes amis, à la dernière émission, nous n'avons eu le temps que de nous rendre au troisième verset du chapitre 11 de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'étude à partir du verset 4. Nous l'avons lu à la dernière émission, mais je veux commencer à ce verset aujourd'hui. Nous allons poursuivre notre étude de la tour de Babel, construite par les hommes. Elle fut construite avec des briques et de la vase, pas avec des pierres et du ciment, car il n'y en avait pas dans la vallée. Lisons ensemble le verset 4 de Genèse chapitre 11. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Notez que l'accent est sur le « nous ».« Bâtissons-nous, faisons-nous, les hommes désirent s'élever. » Il semble que ce fut Nimrod qui était le chef de file de cette rébellion contre Dieu. Il a construit la ville ainsi que la tour de Babel. Il voulait un endroit duquel il établirait un empire mondial qui s'opposerait à Dieu et sur lequel il régnerait. Afin de réaliser ses projets ambitieux et voir l'accomplissement de ses rêves, il avait besoin de deux choses essentielles. Il lui fallait un centre qui servirait de plaque tournante à ses entreprises. Il lui fallait une sorte de quartier général, une capitale, une place de rassemblement, une place vers laquelle tous pourraient se tourner. C'est pour cela qu'il a construit la ville et la tour de Babel. C'était afin de pouvoir mener à terme son projet d'empire mondial. Deuxièmement, il lui fallait davantage qu'une ville bien située géographiquement. Il lui fallait un point de ralliement psychologique afin de motiver les gens, de les inspirer. Une chanson, un cri de guerre, un lieu de rassemblement. La construction de cet énorme monument répondait à ce besoin. Certains pays ont des lieux de rassemblement tels une place publique devant l'édifice gouvernemental. Un exemple contemporain bien connu est la grande place publique de Tiananmen à Pékin. Au temps de Nimrod, le point du ralliement était la tour de Babel. Au moment de sa construction, la tour de Babel représentait la rébellion de l'humanité contre Dieu. Bâtissons-nous, faisons-nous, des mots qui expriment l'ambition démesurée de Nimrod et de l'humanité. Maintenant, voyons ce que la tour de Babel n'était pas. elle ne fut pas construite comme un lieu de refuge en cas d'inondation ou de crue des eaux, comme le proposent certains commentateurs. Je ne peux pas admettre cette interprétation puérile. En fait, les tombes des monarques ne sont pas des lieux de refuge en cas de catastrophe naturelle. La tour révélait plutôt l'attitude arrogante, provocatrice et rebelle de l'homme envers Dieu. Dieu avait demandé à l'homme de se procréer et de remplir toute la terre. En fait, la tour de Babel était un refus de se disperser sur la surface de la terre. L'homme a préféré s'unir et se rassembler en un lieu et s'élever jusqu'à Dieu. De plus, la tour était un puissant symbole religieux. C'était une ziggourate, de même genre dont on trouve de nombreuses ruines dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Les ziggourats étaient des lieux pour adorer la création plutôt que le Créateur. Certaines étaient rondes, d'autres carrées, mais toutes avaient des passerelles pour se rendre au sommet. Et c'est là que la population adorait le soleil, la lune et les étoiles. Du sommet, la population voyait bien les astres, donc elle savait qu'il n'y aurait pas de déluge. Les gens pensaient probablement que Dieu avait été trop sévère en jugeant le monde avec un déluge. Maintenant, observons la réaction de Dieu à la construction de la tour. Les versets 5 et 6 de Genèse 11. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Nous avons ici une constatation très sérieuse. À ce moment-là, il n'y avait pas de barrière linguistique puisque tous parlaient la même langue. Les peuples pouvaient se rassembler et mettre en commun leurs connaissances et leurs ressources. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Nous découvrons que le déluge n'a pas amélioré l'humanité. L'homme a toujours sa nature déchue. Il est entièrement dépravé. Dieu ne peut pas passer outre à cette rébellion contre lui. Donc, il va construire des barrières protectrices. Il va ériger des murs entre les peuples. Cela était nécessaire, parce que l'homme est habile et compétent. Il a marché sur la lune. Il a construit des avions énormes, comme le Concorde. Ce texte fut rédigé sur une petite merveille informatique, et, grâce aux progrès dans le domaine médical, l'espérance de vie augmentée. L'homme est une créature très compétente. Vous rendez-vous compte de ce que l'humanité, qui parlait une seule langue, aurait pu faire en s'unissant pour se rebeller contre Dieu? Observez ce que Dieu fit. Les versets suivants. Les versets 7 à 9. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Maintenant l'homme est dispersé sur la face de la terre. Les hommes étaient unis dans la rébellion contre Dieu. Maintenant, ils ne se comprennent plus entre eux. Une barrière linguistique est beaucoup plus élevée que le mur de Chine. Elle est plus efficace qu'un mur de Berlin. Une barrière linguistique sépare vraiment les peuples. Et c'est plus efficace qu'une frontière ou un océan. Nombreux sont ceux qui pensent que les langues se sont développées graduellement. Mais Dieu affirme qu'il confondit le langage à ce moment-là, pendant la construction de la tour de Babel. Ne pouvant plus communiquer entre eux, les hommes cessèrent leur projet de construction et ils se dispersèrent dans toutes les directions. ce fut un événement sensationnel. Ici, les gens parlaient en langue sans se comprendre. Ce fut un miracle touchant le langage et la compréhension. Les gens entendaient leurs voisins parler, mais ils ne pouvaient plus le comprendre. J'ai une petite colle pour vous. Est-ce une bénédiction déguisée ou une malédiction sur l'humanité? Bien, du point de vue de Dieu, c'était une bénédiction, mais en ce qui concerne le projet des hommes qui voulaient se passer de Dieu, ce fut une malédiction. Au cours des siècles, les peuples furent isolés les uns des autres et cela a été une entrave à l'humanité. Aujourd'hui, avec les médias modernes, la barrière de langage s'abaisse de plus en plus. La barrière s'écroule comme le firent les murs de Jéricho. C'est l'une des raisons pour laquelle je pense que Dieu nous jugera de nouveau bientôt. Maintenant, comparons cet événement au don des langues manifesté le jour de la Pentecôte. Ce fut un autre miracle concernant les langues, mais cette fois, l'Évangile fut prêché dans toutes les langues que les personnes présentes comprenaient. Et ce n'étaient pas des langues incompréhensibles ou inconnues. Ce ne fut jamais le cas lors de parler en langue dans le Nouveau Testament. Le jour de la Pentecôte, Dieu a contourné la barrière des langues. Dieu a dit à l'humanité qu'il avait une bonne nouvelle pour elle et que son message lui sera transmis dans la langue de chacun. C'est ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, la Bible est traduite dans plus de langues que n'importe quel autre livre. Elle est présentement en cours de traduction dans de nombreuses langues et dialectes, et des centaines de tribus à travers le monde achètent ces versions de la Bible. L'Évangile s'adresse à toute l'humanité, et le parler en langue du jour de la Pentecôte annonçait au monde que Dieu surmonterait la barrière créée lors de la construction de la tour de Babel. La mission de Jésus-Christ était accomplie. Une personne peut être sauvée par la foi. Elle peut entendre l'Évangile, la parole de Dieu, et se tourner vers lui pour recevoir le salut gratuit qu'il lui propose. Qui que tu sois, quelle que soit ta langue, le message de l'Évangile s'adresse à toi. L'Évangile t'est destiné, ainsi qu'à toute l'humanité. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous lisons au sujet d'un grand rassemblement en présence de Dieu, et je cite Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ceci conclut notre étude de la tour de Babel. Maintenant, nous allons nous pencher sur la lignée de Sem, parce que c'est celle-ci qui sera suivie désormais dans la Bible. Elle mène éventuellement à Jésus-Christ. Genèse, chapitre 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpakshad, 2 ans après le déluge. Les versets qui suivent présentent la généalogie de Sem, et à la fin de celle-ci, nous lisons, versets 24 et 25, « Nakhor, âgé de 29 ans, engendra Térakh. Nakhor vécut après la naissance de Térakh 119 ans, et il engendra des fils et des filles. » Pourquoi nous intéressons-nous à suivre la lignée de Sem en passant par la branche de Térakh? Lisons le verset suivant, le 26e. « Térakh, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakhor et Haran. » Maintenant, nous allons suivre la lignée d'Abraham, mieux connu sous le nom que Dieu lui a donné, Abraham. Nous suivrons la lignée de Sem à travers toute la Bible. La parole de Dieu la suit jusqu'à la croix de Christ. Jusqu'ici, Dieu nous a donné des renseignements préliminaires. Dieu a prouvé à l'homme qu'il est pécheur. Nous avons vu que Caïn n'était pas disposé à admettre qu'il était un pécheur. En lui, nous avons vu un homme orgueilleux qui refusait de s'humilier comme son frère Abel. Nous avons vu que, juste avant le déluge, toute chair était corrompue sur la terre. Les pensées des hommes se portaient uniquement vers le mal et la violence. Les gens n'admettaient pas qu'ils avaient besoin de Dieu. Ils n'entendaient pas ses appels. Ils refusaient de venir à Dieu. Ils étaient morts dans leurs péchés. Dieu les a appelés au moyen de la prédication de Noé. Mais ils refusèrent de se repentir, préférant vivre dans le péché. Ici, à la tour de Babel, nous voyons le péché d'orgueil, une rébellion ouverte contre Dieu. L'homme refuse de se soumettre à Dieu. Chers amis, vous êtes-vous construit une petite tour de Babel privée? Êtes-vous en rébellion contre Dieu? Avec notre nature pécheresse, nous nous rébellons facilement contre Dieu. Un soir, la conduite du petit Richard était inadmissible. Il s'énervait et refusait d'obéir à sa mère. Finalement, elle le fit asseoir dans un coin pour le punir. Elle rejoignit le reste de la famille. Peu de temps après, elle entendit un bruit et demande à Richard s'il était toujours assis sur sa chaise. Il répondit « Oui ». Mais dans son fort intérieur, il était debout. Croyez-moi, beaucoup de chrétiens se rebellent présentement contre Dieu dans leur cœur. Ils se sont construits une petite tour de Babel. Maintenant, voici la suite de la lignée de Térakh, les versets 27 à 31 de Genèse chapitre 11. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abram, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nakhor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Jiska. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abram, son fils Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Haran signifie « délai » ou « retardé ». Le verset 32. Les jours de Térakh furent de 250 ans, et Térakh mourut à Charan. Ces quelques faits historiques nous indiquent que nous allons maintenant suivre l'histoire d'Abraham, et elle débute au prochain chapitre. Nous sommes à un point tournant du livre de la Genèse, ainsi que de toute la Bible. Les 11 premiers chapitres ont couvert 2000 ans d'histoire. Les 39 autres chapitres couvre seulement 350 ans d'histoire. Les chapitres 12 à 50 du livre de la Genèse nous parlent des patriarches, à partir d'Abraham jusqu'à Joseph en Égypte. Les 11 premiers chapitres parlent de la création, de la chute, du déluge et de la tour de Babel, les 4 événements majeurs de cette période de 2000 ans. Maintenant, au chapitre 12, nous passons à une nouvelle section entièrement différente. Le style et l'atmosphère du récit biblique changent. Nous allons ralentir le pas. Nous ne couvrirons plus 2000 ans en 11 chapitres. L'accent ne sera plus mis sur de grands événements bouleversants, mais plutôt sur des personnages. Les personnages que nous étudierons ne furent pas tous de grands personnages, mais ils furent tous importants. Nous en verrons 4 dans le livre de la Genèse et de nombreux autres dans la suite de l'Ancien Testament. Premièrement, du chapitre 12 au chapitre 23, de la Genèse, nous allons étudier la vie d'Abraham. Ensuite, nous passons à Isaac, le fils bien-aimé, de Genèse 24 à Genèse 26. Ensuite viendra Jacob, le fils choisi et formé par Dieu, de Genèse 27 à Genèse 36. Finalement, nous terminerons avec Joseph, de Genèse 37 à Genèse 50, le fils qui a souffert et qui fut glorifié. C'est ce personnage biblique qui est l'image la plus complète de Christ, qui lui ressemble le plus, même si la Bible ne le présente pas comme tel. Aujourd'hui, je veux simplement introduire le chapitre 12 et nous poursuivrons son étude à la prochaine émission. En ce qui concerne la chronologie, nous sommes à mi-chemin des événements bibliques, cependant, notre programme de 5 ans est encore à ses débuts. Chronologiquement, nous sommes à mi-chemin entre la création et la croix. Maintenant, Dieu cesse de traiter de l'histoire des nations. Il se concentre sur un homme qui deviendra une grande nation de laquelle sera issu le Sauveur du monde. Selon les normes, Abraham est un grand homme. C'est un des plus grands hommes à avoir jamais marché sur la terre. Comment détermine-t-on si une personne est grande aujourd'hui? Premièrement, la personne doit devenir célèbre. Même dans cette période de médias électroniques, plus de personnes ont dû entendre parler d'Abraham que de quiconque d'autre. Plus de personnes ont entendu parler d'Abraham que du premier ministre, que d'une vedette du domaine artistique ou que d'un athlète olympique. 3 grandes religions du monde remontent jusqu'à Abraham. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Des millions de personnes en Asie et en Afrique ont entendu parler d'Abraham, mais ne connaissent rien des gens qui font la une de nos journaux. La marque d'un grand homme est la célébrité. Sur ce point, Abraham se qualifie. Un autre trait d'un grand homme est sa noblesse et sa générosité. Connaissez-vous quelqu'un qui fut aussi généreux qu'Abraham? Je ne pense pas que personne ne ferait preuve de la même générosité qu'Abraham aujourd'hui. Lorsqu'Abraham et son neveu Lot sont revenus en Palestine, Abraham a laissé son neveu choisir une partie du territoire et il a accepté de se contenter de ce qui resterait. Verrions-nous une telle attitude dans le monde des affaires aujourd'hui? C'est à peine si nous voyons cela dans nos églises, encore moins dans le monde endurci d'aujourd'hui. Troisièmement, un grand homme doit vivre à une époque de grands changements. Comme Napoléon l'a affirmé, il doit être un homme avec un destin. Le bonhomme et la bonne époque doivent se croiser. Ce fut certainement le cas d'Abraham. Je pense que le monde est en général d'accord avec les 3 points que j'ai mentionnés. Cependant, je doute qu'il soit d'accord avec mon dernier point. Un grand homme doit être un homme de foi. Remarquez que tous les grands personnages, même s'ils ne sont pas chrétiens, croient en quelque chose. Ils ont une vision. Dieu a affirmé qu'Abraham était un homme de foi. Chers amis, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 12, les 12 premiers versets.
Merci, Régent. Imaginez, si on avait été là quand Dieu a confondu les langues à la tour de Babel, quelle confusion! Quelle frustration aussi de ne pas être capable de comprendre ce que les autres disaient et de ne pas pouvoir se faire comprendre par les autres. L'année dernière, j'étais en vacances sur une belle île tropicale. Et à un moment donné, un Allemand s'est approché de moi pour me parler. Bien sûr, il m'a adressé la parole en allemand. Et je lui ai dit, « Parlez-vous le français? » Il m'a regardé avec des points d'interrogation dans les yeux. Alors j'ai dit, « Do you speak English? » Puis il a répondu, « Nein. » Puis il est reparti, l'air déçu de ne pas avoir pu communiquer avec moi. Mais là, j'imagine le même scénario, mais avec une personne que je connaîtrais, puis qui viendrait soudainement vers moi en m'adressant la parole dans une langue qui n'a jamais parlé auparavant, que je n'ai jamais apprise. Wow! Je serais pas juste déçue, là, je serais confuse. Ce serait encore pire si je voulais annoncer la bonne nouvelle à cette personne. Si je voulais lui dire ce que Jésus a fait pour elle. Si je voulais lui parler de l'amour de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il permettra pas ça. Dieu veut se faire comprendre dans toutes les langues aujourd'hui. Même s'il y a plein de langues, je sais pas combien, plein de langues, de dialectes. Dieu, dans son amour, veut se faire connaître au cœur de l'homme. Et il vient, puis il se fait connaître dans notre langue, tout simplement. Oui, il s'est fait connaître à moi en français. J'ai le plaisir de pouvoir le faire connaître à d'autres en français et en anglais. Et il y en a d'autres qui peuvent parler encore plus de langues, qui peuvent avoir accès à encore plus de gens. Mais gloire à Dieu, parce que peu importe ta langue, il peut parler à ton cœur. Il te connaît. Puis il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Alors, si ça t'est pas encore venu à l'idée, mais laisse-le parler à ton cœur aujourd'hui. Dieu te parle dans ta langue. Dieu t'aime. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Je veux te prendre avec moi pour l'éternité. Je veux que tu sois certain, certaine, que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Tu vas mourir un jour, ça c'est la justice de Dieu. On va tous passer par là. Mais c'est important, avant de partir, d'être sûr où on s'en va. Puis Dieu, dans son amour, il veut qu'on soit sûr où on s'en va. Il nous prépare une place. Jésus, quand il a quitté la terre, il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Puis toutes les places sont belles et bonnes dans le royaume de Dieu. Alors, laisse-le te convaincre de venir à lui. Laisse-le entrer dans ta vie aujourd'hui. Repens-toi. Reconnais-toi pécheur. C'est peut-être difficile de dire « je me reconnais pécheur ». C'est un mot qu'on n'aime peut-être pas utiliser aujourd'hui. Mais c'est les réalités. Dieu change pas. Ce qu'il appelait péché autrefois, il appelle ça encore péché aujourd'hui. Repens-toi. Crois à la bonne nouvelle que Jésus est venu, qu'il a donné sa vie pour toi. Et écoute sa voix dire « je frappe, ouvre la porte de ton cœur, laisse-moi entrer. Deviens un enfant de Dieu. » Je te parle dans ta langue pour que tu comprennes combien je t'aime. C'est Dieu qui te dit ça présentement. À travers ma petite bouche, Dieu te dit « je t'aime » d'un amour éternel. Viens passer l'éternité avec Dieu. Dieu est jamais décevant. Dieu t'aime.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.